USA 2020.
Europe One Special Edition.
I am your voice.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
I don't look at this in terms of the way he does.
Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h pour suivre ensemble le dénouement de cette élection américaine. Joe Biden est en tête ce soir. Il a prévu de s'adresser à la nation dans la soirée, nous dit-on. Nancy Pelosi, troisième personnage de l'État, n'hésite plus à dire que Biden est élu président. Ça ne fait aucun doute, dit-elle, même si les dépouillements se poursuivent. Et tout se jouera, sans doute, en Pennsylvanie, qui pèse 20 grands électeurs. Alors quand connaîtra-t-on officiellement le nom du vainqueur? Les recours déposés par les Républicains peuvent-ils changer la donne? Et Donald Trump, si les résultats se confirment, est-il prêt à lâcher la barre? On en parle donc ce soir, édition spéciale avec nos invités, et notamment l'ancienne conseillère de Bill Clinton, l'économiste Nicolas Bouzou également, et nos correspondants sur place aux États-Unis. Le journal d'abord avec les dernières infos Made in US d'Isabelle Millet. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Ça sent la victoire, on ressent la victoire. On attend juste l'annonce officielle, mais les chiffres sont clairs.
Les démocrates font déjà la fête après 3 jours de suspense. On n'a jamais été aussi près de connaître le nom du futur président américain. Joe Biden a prévu de s'adresser ce soir à la nation.
Xavier Yvon à New York est notre vigie qui scrute les résultats état par état. Il nous dira tout dans un instant, car ça se précise, vous l'avez compris.
Et on entendra donc cette joie des démocrates qui éclate avant même à l'annonce des résultats officiels.
Didier François nous dira que Donald Trump a réalisé malgré tout un excellent score, mais qui n'a pas suffi face à la mobilisation démocrate.
Et puis on fera connaissance également avec celle qui devrait devenir la future nouvelle vice-présidente, Kamala Harris. Et on reviendra sur les relations compliquées entre Donald Trump et l'Europe. On espère que ce sera plus simple avec Biden si c'est lui.
La tendance météo avec Anissa chez nous en France. Le temps se dégrade dans le sud-ouest.
Oui, une perturbation arrive en effet, notamment sur le Pays Basque et la Nouvelle-Aquitaine. Cette perturbation va apporter de fortes pluies. Prudence, le vent souffle aussi dans le secteur. Et je vous rassure, dans d'autres régions, le soleil sera encore bien présent demain. Et je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et minute après minute, la tendance se confirme et laisse peu de place au doute, alors que l'on a appris il y a quelques minutes que Joe Biden avait prévu de s'adresser ce soir à la nation.
Xavier Yvon, vous êtes toujours en direct avec nous de New York, et cela jusqu'à 20h. Est-ce qu'on peut dire cette fois que rien ne peut plus désormais empêcher cette victoire de Biden ?
Oui, on n'attend plus que l'annonce définitive. En fait, hein, les 3 grandes chaînes, ABC, NBC et CBS, sont en édition spéciale en attendant. Ce seront les grands médias américains avec leur méthode de calcul qui vont, à un moment donné, déclarer l'élection de Joe Biden. On attend surtout l'agence Associated Press qui fait référence dans ce domaine. Tout le monde reste très prudent, mais il n'y a plus vraiment de doute depuis que Joe Biden a pris l'avantage sur Donald Trump en Pennsylvanie, dans le dépouillement. On ne voit pas comment le président peut rattraper le démocrate. Or, la Pennsylvanie, c'est le terminus, hein, c'est la dernière pièce du puzzle. En remportant ses 20 grands électeurs, Joe Biden dépassera le seuil fatidique des 270. Il deviendra le 46e président des États-Unis. Alors, la chaîne NBC explique sa prudence en disant qu'elle attend que l'écart entre Biden et Trump atteigne le seuil au-delà duquel il n'y aura pas de recomptage automatique. Ça, c'est pour la Pennsylvanie. En Géorgie, c'est trop serré. L'État a annoncé qu'il allait recompter ses bulletins de vote, mais Joe Biden n'a pas besoin de la Géorgie pour gagner. C'est la Pennsylvanie qui suffit. D'ailleurs, Joe Biden, on ne sait pas ce qu'il va dire, mais il doit s'exprimer ce soir devant les Américains. Ce sera à 20h, heure de la côte Est, 2h du matin en France, depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. Et le camp Trump, lui, est bien conscient qu'on touche à la fin. Il a envoyé un communiqué clairement, cette élection n'est pas terminée. Ça vous donne une idée de l'état d'esprit à la Maison-Blanche. Donald Trump n'est pas prêt à concéder sa défaite. Et d'ailleurs, s'il ne le fait pas, il y a un porte-parole de la campagne Biden qui a déclaré que le gouvernement américain était tout à fait capable, je cite, d'escorter les intrus hors de la Maison Blanche. Autre signe qui ne trompe pas, le Secret Service qui protège les présidents a renforcé la sécurité autour de Joe Biden et de sa maison, survol de l'espace aérien interdit. Et puis Nancy Pelosi, vous savez, c'est la patronne des démocrates à la Chambre, et bien elle ne parle même plus au conditionnel, elle désigne désormais Joe Biden comme le président élu des États-Unis.
Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant permanent d'Europe 1 à New York.
Une victoire en tout cas qui ne fait aucun doute côté démocrate. Mathieu Bock, vous êtes à Washington où on n'a pas attendu les résultats officiels pour faire la fête.
Et oui, les partisans ici ont sorti les enceintes, ils dansent sur la route au soleil à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche. Et même si les résultats officiels se font attendre, vous l'avez dit, Jordan tient un panneau à la main où est écrit « Le cauchemar est fini, la fin annoncée de l'ère Trump est un soulagement pour lui ».
Je suis vraiment heureux qu'on revienne à une situation normale et que ce cauchemar soit terminé, qu'on puisse arrêter ces mensonges, cette corruption. On va avoir une administration dont on pourra être fier. Vous m'avez dit que vous étiez français ? J'espère que ça va restaurer l'estime que les Français peuvent avoir pour nous et qu'on reprenne la place qu'on avait à vos yeux.
Alors un peu plus loin, Patrick prend une photo de la Maison-Blanche à travers les barrières anti-émeutes qui l'entourent. Ce retraité espère que Biden réussira à rattraper les dégâts que Trump a causés pendant 4 ans.
J'espère que Biden va rassembler le pays, car c'est évidemment plus dans sa personnalité de rassembler que dans celle de Trump. J'ai espoir que ce soit le cas, c'est ce que toute sa vie montre, et sûrement pas celle de Trump.
Alors de plus en plus de monde arrive ici au fur et à mesure que les gens sortent de leur pause déjeuner, il est 13h ici évidemment, et apprennent la nouvelle, les policiers deviennent de plus en plus nombreux également pour encadrer la foule, mais aussi pour empêcher d'éventuelles bagarres si des partisans de Trump décidaient de venir ici et de provoquer ces militants démocrates.
Merci à vous. Mathieu Bock à Washington donc pour Europe 1.
Les démocrates qui, sans attendre l'annonce officielle, célèbrent donc déjà la victoire, on vient de l'entendre, tandis que chez les républicains, ils brandissent une nouvelle fois l'argument d'une élection truquée.
Oui, mais des voix dissonantes commencent à se faire entendre, notamment celle du sénateur républicain Mitt Romney. C'est l'un des rares républicains qui, on s'en souvient, avait voté pour la destitution de Trump. Et il déclare ce soir que le président actuel, le président sortant, a tort de dire que cette élection a été truquée. Les propos de ce président, dit-il, sapent les institutions et attisent les tensions. Alors si Biden n'a pas encore officiellement gagné, une chose est sûre, Trump, lui, ne peut plus l'emporter.
Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
C'est l'œil de Didier François comme chaque soir à 19h. Et ce soir, on parle évidemment des États-Unis avec vous. Et c'est d'autant plus frustrant pour le président sortant Donald Trump qu'il a fait un score remarquable.
Oui, il a fait un score excellent même. 70 millions d'électeurs ont voté pour lui. C'est 7 millions de plus qu'en 2016. Une progression de 10%, énorme. Et c'est presque la moitié des suffrages exprimés dans une élection qui a tenu un taux record de participation, 67%, c'est plus que pour Barack Obama. Alors certes, ça ne sera pas suffisant puisque le candidat démocrate semble effectivement avoir réussi à mobiliser légèrement plus que le président sortant, mais c'est quand même la preuve que malgré tous ses défauts, aux yeux des experts, des diplomates, des médias, Donald Trump n'a pas déçu ses partisans au cours de ses 4 années à la Maison-Blanche. Mieux encore, il a réussi à élargir son socle d'électeurs, parfois même dans des secteurs de la population qui ont plus que surpris les stratèges démocrates. Chez les Noirs, par exemple, il progresse. Il passe de 8 à 12% avec une partie de la communauté qui a été directement touchée par les émeutes et qui a en fait été plus sensible à son discours sur la loi et l'ordre qu'aux accusations de racisme à son encontre. On a une évolution de même nature dans une partie de la communauté latino où les immigrants installés aux États-Unis depuis la fin des années 90 se sont pas montrés extrêmement solidaires avec les nouveaux arrivants qui sont vus comme des concurrents économiques. Et donc voilà, il y a aussi dans les villes à un moment, on a vu une petite progression de son électorat.
Et alors cette résilience électorale de Donald Trump aura selon vous, Didier, des conséquences sur la politique que pourrait mettre en œuvre un Joe Biden président ?
Moi, ça me paraît évident parce que s'il réussit à gagner ce soir, c'est qu'il aura su reconquérir le vote des ouvriers de la fameuse Rust Belt, qui est le cœur industriel de l'Amérique. Ce sont les anciens bastions démocrates qui avaient basculé en faveur de Donald Trump lors du suffrage de 2016. Et c'est bien l'enjeu de ces 4 États qui sont en ce moment discutés, comptés, qui seront recomptés, mais qui surtout vont rester sous la tension permanente du futur président, parce que c'est là que se joue le vrai bras de fer pour convaincre ces cols blancs dont les emplois sont menacés par la concurrence chinoise, les délocalisations, la dérégulation des marchés. Et il va falloir leur faire la démonstration que la politique étrangère des États-Unis est bien menée pour défendre leurs intérêts et que l'isolationnisme, ce n'est pas la solution. Et cette bataille, elle est loin d'être gagnée.
Bien, merci Didier. L'œil de Didier François, c'est évidemment tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20, spéciale présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
Oui, 19h10, la suite de notre édition spéciale sur Europe 1 consacrée à cette élection présidentielle américaine qui devrait, sauf immense surprise, voir Joe Biden accéder donc à la Maison-Blanche.
Mais on est quand même obligé de conserver le conditionnel tant que l'annonce officielle n'a pas été faite.
Oui, Joe Biden qui va emmener avec lui à la Maison-Blanche, si ça se confirme, Kamala Harris.
Et qui deviendrait donc la première femme noire à accéder à la vice-présidence, un poste qui récompense une carrière hors norme pour cet enfant d'immigré, Jeanne Bergaoui.
Absolument. Il faut dire que Kamala Harris, 56 ans, collectionne les titres de pionnière. Première femme de couleur à devenir procureure du district de San Francisco en 2003. Première femme, mais aussi première personne noire à être élue procureure générale de Californie en 2011. En 2016, elle s'inscrit à nouveau dans l'histoire en devenant la première sénatrice américaine d'origine indo-américaine. Celle que l'on surnomme l'Obama Girl a toujours revendiqué ses origines. Un père jamaïcain, professeur d'économie et une mère indienne, chercheuse spécialisée du cancer du sein, qui se sont rencontrées dans les années 60 au sein de l'université de Berkeley en Californie.
Ma mère et mon père, avant d'arriver en Amérique, venaient de deux endroits à l'opposé dans le monde. L'un originaire d'Inde et l'autre de Jamaïque, à la recherche d'une éducation de classe internationale. Mais ce qui les a réunis, c'est le mouvement pour les droits civiques dans les années 60. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, marchant et criant dans les manifestations pour la justice, un combat qui continue aujourd'hui.
Son histoire familiale, son ascension professionnelle, son parcours politique, pour beaucoup, Kamala Harris, c'est donc l'incarnation d'un modèle, d'un certain rêve américain. Elle se décrit comme déterminée, intrépide, pugnace. Au Sénat, elle s'est fait remarquer pour ses interrogatoires musclés avec des membres de l'administration Trump. C'était par exemple le cas avec le juge Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle lors de son audition pour la Cour suprême en 2018. Kamala Harris, c'est donc une fermeté, une voix puissante qui n'hésite pas à attaquer frontalement le président Trump, comme pendant ce débat entre démocrates en 2019.
Président Trump, vous avez passé ces 2 ans et demi à essayer d'installer la haine et la division parmi nous, et rien d'autre n'a été fait. Vous avez utilisé la haine, l'intimidation, la peur, mais ce que vous n'avez pas saisi, c'est que les Américains valent beaucoup mieux que ça. Et maintenant, Président Trump, vous pouvez retourner regarder Fox News.
Alors depuis des mois, Donald Trump affiche un mépris particulier pour Kamala Harris. Méchante, horrible, c'est un monstre. Voilà quelques-uns des qualificatifs qu'il a pu utiliser à son encontre. Joe Biden, lui, vante plutôt une colistière talentueuse en qui il voit l'étoffe d'une présidente capable de lui succéder en 2024, voire avant, en cas de problème de santé. Et ce scénario éventuel signifierait donc une autre première pour Kamala Harris, celle de première femme présidente des États-Unis.
Merci beaucoup, Jeanne Bergawi. Ce qui est sûr, c'est que la tâche qui attend Joe Biden et Kamala Harris est immense. Un président des États-Unis en temps normal, c'est déjà colossal, mais dans le contexte actuel, c'est un sacerdoce. Hein.
Si vous cherchez du travail, Isabelle, peut-être vous pouvez aller leur filer un petit coup de main. Crise sanitaire, contexte économique, contexte international, effectivement.
Et on sait que Trump ne tenait pas les dirigeants européens en estime, en particulier Angela Merkel, qui était sa bête noire. Hein. Hélène Kohl, on vous retrouve. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin en direct.
Oui, et indépendamment de ces deux styles politiques complètement à l'opposé, il y a eu au cours des 4 dernières années de vraies confrontations entre la chancelière Merkel et Donald Trump. Alors agacé par les succès du Made in Germany, Trump faisait en permanence planer, comme une épée de Damoclès si vous voulez, la menace de taxes douanières sur les produits allemands et notamment sur les voitures allemandes. Indirectement, l'Allemagne a souffert comme aucune autre économie européenne des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Trump avait pris Angela Merkel en grippe dès sa campagne électorale en 2016, l'accusant de ne pas cotiser assez au budget de l'OTAN et donc de laisser les Américains en quelque sorte payer pour sa sécurité. L'OTAN, le sujet a vraiment pesé sur l'ensemble des relations transatlantiques ces dernières années. Ça a eu le mérite toutefois de faire avancer le débat sur la question de la défense européenne. Trump rendait les choses assez claires, pas le choix, il fallait que l'Europe prenne en main son destin. Mais maintenant, que va-t-il se passer si Biden remporte le scrutin? Est-ce que la donne va vraiment changer? Et ce débat, il est vraiment très vif en ce moment à Bruxelles et elle a été relancée à Bruxelles et dans les capitales européennes, surtout après une tribune publiée la veille des élections américaines par la ministre allemande de la Défense, qui a vraiment mis les pieds dans le plat. Quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, dit-elle, l'Europe continue d'avoir besoin des États-Unis. Elle écrit que les illusions d'autonomie stratégique européenne doivent cesser. Autant vous dire que beaucoup en Europe et notamment à Paris n'ont pas trop apprécié cette sortie.
Merci, effectivement. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en direct de Berlin.
Et merci à vous Isabelle. Bon week-end US peut-être. Vous allez suivre ça évidemment et on se retrouve lundi à partir de 18h pour le 18-20. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Et avec Anissa aussi, on est entre de bonnes mains parce qu'Anissa, vous nous avez rejoint et vous nous annoncez un ciel qui se couvre demain, mais avec quand même du beau temps.
Oui, alors ça se couvre dans le sud-ouest, Julien, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, sur les Pyrénées demain matin. Il pleut, des pluies accompagnées d'orages dans ces secteurs. Et puis le vent qui souffle fort sur le Roussillon. C'est la tramontagne qui se renforce encore demain avec des rafales jusqu'à 110 km/h. Les pluies pourront être fortes par endroits, notamment sur les Cévennes. Des pluies soutenues. Le long de la façade atlantique, le vent souffle là aussi. C'est le vent d'Est. Ailleurs, le temps est calme demain matin. Et puis dans l'après-midi, la perturbation va avancer doucement. De la Bretagne au bassin méditerranéen, il pleut. Sur les Cévennes, les pluies sont soutenues, je vous le disais, avec des orages. Et puis, sur les Hauts-de-France, on termine par les bonnes nouvelles. La Normandie, la région parisienne, le Grand Est, les Alpes, jusqu'à la Côte d'Azur. Dans toutes ces régions, demain, il fera beau, le soleil brille. Les températures toujours négatives le matin dans le Nord-Est et puis 5 à 15 degrés ailleurs. Et dans l'après-midi, ça grimpe. Hein. Et il fera beaucoup plus doux avec 12 à Strasbourg, 17 à Paris. On va gagner 4 degrés dans la capitale, 20 du côté de Marseille et 22 à Montluçon pour la maximale.
Et ça va durer dimanche ou pas?
Dimanche, ça sera le même type de temps.
Mais super!
Un peu compliqué à l'ouest et agréable à l'est.
Ça y est, vous nous avez fait notre soirée. Merci beaucoup, Anissa. Bon week-end à vous.
À lundi.
19h16, on ouvre maintenant le Club des idées spécial US.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec la carte blanche américaine, bien sûr, ce soir de Nicolas Bouzou. Bonsoir, cher Nicolas.
Bonsoir.
Alors, Joe Biden, président, ça n'est pas encore fait, mais ça en prend le chemin. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, Européens ?
Alors, il est clair que si la victoire de Joe Biden se confirme, on va entendre un immense ouf de soulagement dans la plupart des pays européens, pour de très bonnes raisons, parce qu'on va retrouver dans le domaine diplomatique une espèce de décence, de style civilisé, parce qu'aussi, très concrètement, Joe Biden a annoncé qu'il allait revenir dans les accords de Paris. On sait que c'est très important pour beaucoup sur le climat. On sait que c'est très important pour beaucoup de pays européens, dont la France. Mais je pense qu'il y a aussi un danger, en fait. C'est que ça nous amène à une certaine naïveté et qu'on considère que les États-Unis sont redevenus un pays sur lequel on doit être aligné et un partenaire facile.
Parce qu'il y a la problématique de la Chine, notamment.
Oui, voilà, exactement. Je crois qu'il y a quand même des choses structurelles aux États-Unis qu'il faut garder en tête et qui montrent que l'Amérique de Biden ne sera pas fondamentalement différente de l'Amérique de Trump. Alors, vous avez tout à fait raison de souligner la question de la Chine. Il faut bien comprendre que dans la psychologie américaine aujourd'hui, la Chine, c'est devenu le danger numéro un. On est dans une nouvelle guerre froide. Les Américains ne tolèrent pas, au fond, l'idée de se voir supplanter économiquement, technologiquement. Ça, je dirais que c'est presque quasiment déjà fait. Et peut-être demain ou après-demain militairement, par la Chine. Et donc, ça les met dans une posture qui est une posture de puissance et de défense de leurs intérêts. On l'a vu récemment avec les GAFA. Il avait été vaguement question de démanteler les GAFA aux États-Unis. Et puis, c'est un sujet qui est complètement passé à la trappe parce que les Américains, et notamment les démocrates, ont compris que les GAFA, c'était un instrument de la puissance technologique et économique et que, par rapport à la Chine, c'était
D'ailleurs, quand on a voulu instaurer une taxe en France sur les GAFA, il s'est fâché très fort, Donald Trump.
Absolument. Les relations avec l'Europe vont aussi sans doute demeurer compliquées sur les questions commerciales. Parce que l'administration américaine, elle reste aujourd'hui extrêmement méfiante sur tout ce qui est délocalisation. C'était vrai, évidemment, sous Trump, mais ça restera vrai si Biden est élu. Et le Parti démocrate, il est devenu finalement relativement protectionniste. Il ne faut pas le voir comme un parti pro-mondialisation. Ça, je dirais que c'est un peu terminé. Et donc, quand on va reparler des négociations commerciales, alors avec la Chine, mais aussi avec l'Europe, on va voir que ça va être assez compliqué.
Biden ne pourra jamais revenir sur l'instauration des taxes aux importations de produits européens, notamment mises en place par Donald Trump. Politiquement, ce sera impossible.
Vous avez tout à fait raison, et ça m'emmène au dernier point, d'ailleurs, qui est le fait que si Joe Biden se présente comme étant beaucoup plus favorable au multilatéralisme que Trump, il ne faut jamais perdre de vue que les Américains, in fine, ils finissent toujours par prendre des décisions dans leur propre intérêt, même si ça les amène à rompre avec le multilatéralisme. Donc, je crois vraiment que évidemment, les Européens, la plupart des Européens vont être très contents si la victoire de Biden se confirme, mais il ne faut pas être naïf. Il faut vraiment considérer que les États-Unis, bien évidemment, c'est un allié, mais que face aux États-Unis, on doit continuer de construire une puissance européenne, puissance économique, puissance technologique, puissance politique qui pèse sur les affaires du monde.
Et de ce point de vue-là, Donald Trump, c'est vrai, nous a réveillés, nous, les Européens.
Vous connaissez cette expression, hein, un avion décolle toujours face au vent. Eh bien là, on n'aura plus le vent Donald Trump.
Vous restez avec nous, Nicolas Bouzou, pour le Club des idées, car ce soir, évidemment, on va parler de tous ces sujets et plus encore, spécial US jusqu'à 20h avec nos invités, nos envoyés spéciaux, nos correspondants et cette information très importante ce soir. soir, Joe Biden va s'exprimer à la nation. On attend un discours dans la soirée. À tout de suite.
Europe 1 at the American election.
Europe Soir, le 18-20.
Europe 1 live for the American elections.
Édition spéciale élection américaine.
Et Julien Bugier.
19h23, on est toujours ensemble effectivement pour notre édition spéciale US car les choses bougent de minute en minute aux États-Unis. On est avec nos invités jusqu'à 20h en studio et en direct. Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton avec nous en direct de New York. Rebonsoir Léa. Yannick Mirreur qui est toujours avec nous, politologue et spécialiste des États-Unis. Jean-Éric Brana. Bonsoir Jean-Éric, spécialiste de la politique américaine et maître de conférence à l'Université de Paris 2. Nicolas Bouzou, économiste qui est resté avec nous après sa carte blanche économique et nos correspondants sur place aux États-Unis, Xavier Yvon à New York et Mathieu Bock notamment à Washington. Jean-Éric Brana, vous nous avez rejoint, j'en profite pour vous interroger sur ce qu'on se disait tout à l'heure en studio. Désormais, il y a peu de doute sur l'issue du scrutin. Joe Biden deviendra vraisemblablement le 46e président des États-Unis et il a d'ailleurs prévu de s'adresser ce soir à la nation. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Est-ce qu'il peut dire « j'ai gagné, je suis le nouveau président » ?
Alors si les votes de la Pennsylvanie ont été publiés, ce que tout le monde attend maintenant, oui, c'est ce qu'il dira évidemment, puisqu'il aura 20 grands électeurs de plus dans son escarcelle et donc il aura dépassé, il sera 273 officiellement gagné.
Il en faut
pour
270
lui.
Pour avoir la majorité.
Il en faut 270 pour être sûr que le collège électoral va vous déclarer président à condition que personne ne fasse défection. Rappelons qu'il y en a quand même à chaque fois qui décident de prendre un chemin détourné. Mais je crois que au stade où il est, puisqu'il annonce déjà qu'il va parler, en réalité il s'agit de calmer les esprits dans le pays. Il a endossé le costume présidentiel. Effectivement, comme vous le disiez, il a quasiment gagné. En tout cas, tout le monde le pense aujourd'hui. Il est quasiment président élect. Il faut donc qu'il rentre dans ce costume vraiment et surtout que le pays ne s'enflamme pas.
Ouais.
Or, on a entendu des propos quand même assez détonnants, voire scandaleux, venir de l'équipe Trump et de son entourage, ses enfants et des conseillers très proches. Ça pourrait mettre le feu aux poudres. C'est pas la rhétorique elle-même, c'est la conséquence que ça pourrait avoir que Joe Biden essaie de contenir aujourd'hui.
C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on sent que l'équipe de Donald Trump est resserrée maintenant autour du clan, presque claquemurée dans la Maison Blanche, entre eux, ce qui peut être aussi d'une certaine manière inquiétant, enfin ça dépend de quel point de vue on se place, mais parce que ils sont tous partisans d'aller jusqu'au bout. Et vous évoquiez l'un des fils de Donald Trump. Alors il y a son fils cadet, Eric, qui a tweeté « Où sont les républicains ? Ayez du cran pour soutenir mon père, lutter contre cette fraude. » Et puis son fils aîné, Donald Junior, qui est allé un peu plus loin. Écoutez-le.
Bon les amis, c'est de la fraude. C'est littéralement de la fraude. Nous l'avons déjà vécu à Philadelphie dans le passé. Ils essaient de nous voler l'élection. Mon père est devant, avec au moins 1,5 million de voix de plus. 86% des bulletins ont été dépouillés et il reste encore beaucoup de comtés républicains. Oui, énormément. Nous allons gagner la Pennsylvanie. Mais ils vont essayer de nous la voler, parce qu'ils savent que c'est leur seul moyen de gagner. Donc nous sommes ici, aujourd'hui, avec nos avocats, et nous allons ouvrir une procédure en Pennsylvanie. C'est une honte qu'on ait à faire ça. C'est la dernière chose que mon père veut faire, mais c'est de la corruption rampante, et ça ne peut pas se passer comme ça. C'est injuste.
Et c'est hallucinant ce qu'on entend, Yannick Mirreur, vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Jamais un président dans l'histoire, et par le biais de son fils, mais lui-même, Donald Trump l'avait dit auparavant, n'avait ainsi remis en doute la légitimité d'un scrutin. C'est quand même incroyable ce qui se passe.
On peut dire tel père, tel fils en tous les cas. Non, c'est vrai que tout ça fait partie de la singularité de la présidence Trump, de sa personnalité. Je pense cependant qu'il est plus un symptôme qu'une cause. Enfin, ça n'est pas un accident, ça c'est certain, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. De la même manière, rappelons-nous que George W. Bush, qu'on regretterait presque et qu'on détestait pourtant et pour de très bonnes raisons, pas seulement l'Irak, n'a pas été un accident de l'histoire. Et je pense qu'il faut revenir d'ailleurs à cette époque-là pour revoir ce qui se passe aujourd'hui et pour comprendre les excès, puisque le parti républicain n'existe plus. En tout cas, on n'a plus d'âme aujourd'hui. Il a été pris en otage par M. Trump, mais parce qu'il a semé malheureusement tout ce qu'il fallait.
Mais il y aura un héritage quand même,
Yannick. Dévoiement,
le disons. Trumpisme restera.
Je pense qu'il restera de la manière que le bushisme est resté. C'est-à-dire qu'il faut se passer peut-être à gauche. Alors, le Parti démocrate, dont on parlait tout à l'heure, le Parti démocrate a beaucoup quand même déçu, voire trahi une bonne partie de l'électorat populaire aux États-Unis. D'une part en étant peut-être trop élitiste, en prenant la cause systématiquement des minorités, de la tolérance, de la discrimination positive, qui globalement écartait, moquait, négligeait certainement la classe ouvrière, oui. Qui est l'épine dorsale de la population historique américaine. Et donc au bout d'un certain temps, cela a quand même nettement pesé. Et puis il y a eu la goutte d'eau, c'est-à-dire la troisième voie, la nouvelle gauche, une gauche un petit peu caviar, pour tout dire, incarnée par Bill Clinton et en particulier Hillary Clinton, avec le score que vous connaissez il y a 4 ans, qui était détestée. Les accords de libre-échange, l'approche de la mondialisation, plutôt que de corriger le tir et de prendre fait et cause pour la classe ouvrière et les classes moyennes aux États-Unis, le Parti démocrate s'est laissé aller à une forme d'élitisme et de dérégulation, notamment financière avec Bill Clinton, qu'il paie et qu'il continue de payer aujourd'hui.
Bien, vous restez avec nous, on continue d'en parler dans quelques secondes. À tout de suite, il est 19h29.
Europe 1. Europe 1, inside the American election. Édition spéciale présidentielle américaine. 19h... Julien
Bugier. 19h30, effectivement, passé de 2 minutes avec la suite de notre édition spéciale US, le club des idées à l'heure américaine et nos invités jusqu'à 20h avec cette élection américaine qui bouge vraiment minute par minute. Joe Biden a désormais la victoire à portée demain et il annonce qu'il s'adressera à la nation ce soir depuis les États-Unis. On va justement retrouver Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Washington. Mathieu, vous êtes au pied de la Maison-Blanche. Quelle ambiance, quelle atmosphère autour de vous ?
Ah bah c'est clairement la fête ici. Hein. Alors vous savez, il y a des grilles anti-émeutes comme ça qui ont repoussé les manifestants à plusieurs centaines de mètres. On n'est pas devant les grilles historiques qu'on peut connaître qui sont vraiment collées à la Maison-Blanche. Là, on est un peu plus loin, mais c'est pas grave. Hein. Les manifestants ici, les militants font comme si on était sous les fenêtres de Donald Trump. A priori, il est même là, donc il y en a plusieurs qui m'ont confié que c'était un plaisir supplémentaire de faire la fête sous ses fenêtres en le narguant. Il y a des manifestants qui ont sorti de la musique, vous l'entendez derrière moi, ça fait plusieurs heures que ça tourne. Pour tout vous dire, il y a un très beau soleil, il y a une très bonne ambiance, et une ambiance bon enfant. Les militants là, sont en train de terminer d'écrire leur dernière pancarte.
Oui.
Alors, il y en a une qui est assez marrante parce que ça fait référence à l'émission de télé qu'animait Donald Trump, c'est You Fired. Donc, une immense pancarte qu'ils sont en train de terminer. Et il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quelques dizaines de personnes. Il est 13h30, les gens travaillent ou viennent ici pendant la pause déjeuner rapidement. On espère qu'il y aura un peu plus de monde en fin d'après-midi. Mais les rues sont bloquées. Il y a une trentaine de policiers qui sont là pour assurer la sécurité, parce qu'avant les voitures continuaient, donc pour pas qu'il y ait d'accident, mais aussi pour éviter que des militants de Donald Trump viennent ici faire un peu de provocation, oui, et qu'il y ait des bagarres. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est très très bon enfant. C'est très sympa.
Très bien. Vous restez branchés. Si c'est très sympa, profitez-en. Alors Mathieu, vous restez branchés avec nous en direct de Washington. Alors, il s'est passé quelque chose la nuit dernière à la Maison-Blanche d'absolument incroyable. Donald Trump, pour la première fois depuis 3 jours, s'est exprimé face à la presse, dans la salle de presse, vous connaissez l'endroit, vous l'avez vu à la télévision notamment, la salle de presse de la Maison-Blanche, avec à ses côtés sa porte-parole, et il a dit ceci avant d'être coupé par les chaînes américaines qui l'ont coupé en direct. C'est absolument inédit.
There are tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever.
Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying in large part is absolutely untrue.
Voilà, vous avez entendu Donald Trump qui commençait à parler à la télévision, c'était retransmis en direct. Il y a eu des fraudes, dit-il, il reprenait le discours qu'il a utilisé maintenant depuis plusieurs jours et plusieurs mois. Et le présentateur, tous les présentateurs et présentatrices qui diffusaient en direct cette prise de parole ont interrompu la diffusion en indiquant que cette retransmission était suspendue, car ce que disait Donald Trump était absolument faux et qu'il l'affirmait sans preuve. Ça, Jean-Éric Brana, c'est inédit dans l'histoire américaine aussi.
La coupure ?
Oui.
Oui, c'est inédit et c'est étonnant. Et moi, ça m'a choqué personnellement. Je dois dire, je pense que c'est une erreur des journalistes.
Vous pensez qu'on aurait dû le laisser finir ?
Je crois qu'effectivement, il faut laisser la parole présidentielle aller au bout et que les Américains se rendent compte de tout ce qu'il est en train de dire et d'abord le respecter. Il y avait comme 70 millions de personnes qui venaient de voter pour lui. Imaginez la tête de ces 70 millions de personnes devant leur poste de télé qui entendent que leur parole, puisqu'ils viennent de voter pour lui, donc c'est leur parole, leur représentant, est coupée. Mais en même temps, c'est le représentant de tous les Américains. Donc sa parole, elle a un sens.
Et pour moi, le travail du journaliste, comme nous les analystes, en réalité, c'est après de commenter, de fast-checker et d'expliquer pourquoi cela pose un problème. C'est pas ce qui s'est passé. C'est une censure. La censure du président des États-Unis, pour moi, est un précédent dont j'avais jamais entendu parler. Et d'ailleurs, ça crée une jurisprudence. Ça veut dire que désormais, les journalistes en question vont devoir couper tous ceux qui racontent n'importe quoi dans le monde politique. Ils vont, à mon avis, couper assez souvent.
Compliqué et voilà. ça risque d'arriver assez souvent.
Et ils ont donné, c'est mon dernier point, pardon, et ils ont donné l'eau au moulin de tous ces gens-là qui disent les médias corrompus font leur petite magouille. Enfin, j'ai pas compris.
Oui, ça renforce les supporters de Donald Trump dans leur conviction anti-système. Vous êtes d'accord, Léa Pizarre ? Vous êtes avec nous en direct de New York et vous êtes ancienne conseillère de Bill Clinton. C'est un moment inédit aussi qu'on a vécu la nuit dernière.
C'est un moment totalement inédit. Mais ce que j'ai surtout remarqué, moi, c'est un Trump qui a l'air de perdre un peu de son énergie, de la niaque qu'on lui connaît. Il semblait déconfit, un peu désespéré. Moi, j'ai suivi ça sur une chaîne qui n'a pas interrompu. J'ai pu voir la totalité.
Fox News, notamment, n'a pas interrompu. Je ne sais pas si c'est celle-ci que vous avez suivie. Mais...
En l'occurrence, pour moi, c'était CNN.
CNN.
Effectivement, on assiste à une espèce de basculement. Et c'était peut-être presque son discours de concession. À sa manière, pour commencer à préparer sa sortie.
Pardon de vous poser cette question un peu baroque, c'est vrai, et politique fiction, mais vous avez été conseillère de Bill Clinton, vous avez connu ces ambiances de la Maison Blanche, du bureau ovale. Si vous étiez ce soir conseillère de Donald Trump, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais de vraiment soigner sa sortie, d'essayer d'avoir un peu d'élégance et d'être à la hauteur pour une fois de la présidence, de faire une sortie digne, un transfert de pouvoir digne afin de pouvoir laisser une marque à peu près décente dans l'histoire. C'est mal parti, mais s'il continue à s'agiter comme ça, les livres d'histoire ne retiendront que cela. Vous savez, j'ai mon fils a 5 ans. Mmh. Alors, il est fasciné, il comprend 270 votes. Et je lui dis... Fais bien attention parce que toute ta vie, on va te parler et tu parleras de cette période. C'est un tournant absolument historique. Donc, il a encore une chance de conserver un tout petit bout de place dans l'histoire.
Nicolas
Bouzou.
C'est
ce que je lui dirais, en tout cas.
Oui, merci.
Moi, ce que j'observe quand même dans la société américaine, c'est finalement qu'elle est beaucoup plus calme que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire qu'on avait vu les achats d'armes qui avaient augmenté ces derniers jours. Certains prédisaient des émeutes. Pour l'instant, il semblerait que les choses se passent assez calmement. Il y a quand même beaucoup de responsables politiques, de congressmen républicains qui ont désavoué Trump et qui expliquent que non, il faut que la démocratie se fasse. Et quand on regarde un peu les télévisions, qu'on lit la presse, tous les juristes américains expliquent aussi que non, voilà, il n'y a pas de preuve de fraude en tout cas. Et donc, il me semble qu'il y a quand même une espèce de consensus populaire autour de cette idée selon laquelle Joe Biden a gagné. Je dis ça parce que
c'est vrai qu'avec l'Amérique, on aime bien agiter le chiffon rouge.
Oui, exactement ce que je voulais dire. On a beaucoup critiqué le système institutionnel américain ces derniers jours. Bon, il se trouve qu'on est dans une situation très polarisée. Et finalement, les choses ne se passent pas si mal que ça.
Alors, tous les regards sont ce soir évidemment braqués vers la Pennsylvanie. C'est la Pennsylvanie qui va déterminer dans quelques instants si Joe Biden est bien le nouveau président des États-Unis. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
19h41, effectivement, suite de notre édition spéciale US avec nos invités jusqu'à 20h. Et les choses évoluent effectivement aux États-Unis. Tous les regards sont désormais les yeux braqués vers la Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs qui sera déterminant véritablement pour cette élection qui aujourd'hui se joue vraiment en faveur de Joe Biden. 253 grands électeurs pour lui contre 213 pour Donald Trump. Xavier Yvon, toujours avec nous en direct de New York. Vous avez de nouveaux éléments, Xavier.
Oui, il y a un nouveau communiqué qui vient d'être envoyé par la campagne de Donald Trump, qui est signé par le président Donald Trump, qui répète qu'il veut qu'il y ait une transparence totale dans le processus électoral, qu'il ne faut pas compter les bulletins illégaux, mais seulement les légaux. On sait qu'il entend par illégaux les bulletins par correspondance, qui ne lui sont pas favorables. Et surtout, c'est la dernière phrase qui est intéressante et qui est importante. Il dit « Je n'abandonnerai jamais de me battre pour vous et pour notre nation ». Ça veut dire que Donald Trump, enfermé dans la Maison Blanche, est déterminé à continuer le processus judiciaire, à contester l'élection de Joe Biden.
Bien, merci Xavier pour cette dernière info. Ça peut durer longtemps, cette bataille de recours et de communiquer, Yannick Mireur.
Je ne pense pas que ça puisse durer au-delà des 3 mois. Il y a une date aussi, entre-temps.
Ça, c'est sûr que le 20 janvier, il y aura un nouveau président ou il y aura le président actuel en poste.
Exactement. Il y a juste une date entre les deux qui est importante. Ce n'est pas la seule, mais notamment celle du 14 décembre où les grands électeurs doivent se prononcer. Je pense que les résultats qui arrivent et la tendance qui s'impose feront l'essentiel du travail. Tout dépend évidemment de l'attitude de M. Trump elle-même. On a beaucoup spéculé sur un déchaînement, etc. Je n'en suis pas du tout convaincu. Donc il se pourrait en fait que finalement, malgré la confusion de l'interrègne, il n'y ait aucun chaos et que ceci se passe finalement relativement bien compte tenu de là d'où l'on vient.
Léa Pizard, toujours avec nous en direct de New York, ancienne conseillère de Bill Clinton quand il était président à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il peut s'aborder la transition entre la passation de pouvoir et le vote d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 janvier, Donald Trump, est-ce qu'il peut s'aborder la transition et savonner la planche d'une certaine manière à Joe Biden? Il paraît qu'il y a une inquiétude particulière chez les dirigeants européens pour les échanges qui vont être les leurs pendant les 3 prochains mois.
Absolument. Il ne serait pas sage de sa part de le faire, mais il est fort probable qu'il essaye de faire absolument tout justement pour savonner la planche. D'une part, en rendant la période de transition qui nécessite vraiment des échanges entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe. Et Barack Obama avait vraiment essayé de faire en sorte que ça se passe bien. George Bush père avait été merveilleux avec Bill Clinton quand il est arrivé à la Maison Blanche. C'est ce qu'on fait quand on est un chef d'État civilisé. Donc, l'équipe qui prépare la transition de Joe Biden depuis un moment, puisque ces choses se préparent avant l'élection, a cette inquiétude. Et évidemment, on ne sait pas ce qu'il pourra faire du point de vue politique et international entre maintenant et le 20 janvier. Alors, il est possible qu'il se déploie dans tous les sens.
Alors justement, Léa Pizard, vous évoquez la transition en 92 entre George Bush père, qui reconnaît sa défaite face à Bill Clinton, le président que vous avez accompagné. Écoutez, c'est donné ça.
Le peuple s'est prononcé et nous respectons la grandeur du système démocratique. J'ai appelé le gouverneur Clinton à Little Rock et je l'ai félicité. Il a mené une campagne solide. Je lui souhaite le meilleur à la Maison-Blanche et je veux que le pays sache que toute notre administration travaillera étroitement avec son équipe pour assurer une période de transition sereine.
Voilà, une chose est sûre, c'était en 92, Nicolas Bouzou, il y a peu de chances que ça se passe pareil cette fois-ci avec Donald Trump.
Avec Donald Trump, oui, évidemment, mais il faut bien voir 2 points. La première chose, c'est que le président aux États-Unis, il a dans ses mains un pouvoir qui est en réalité beaucoup moins fort que, par exemple, le président français. La justice est très présente aux États-Unis, le Congrès est très présent, donc, et l'État, on l'oublie parce qu'on a le sentiment d'un pays libéral, mais on a une administration qui est aussi extrêmement puissante. La deuxième chose qu'il faut aussi avoir en tête, me semble-t-il, c'est que Joe Biden est quelqu'un qui est incroyablement expérimenté. C'est d'ailleurs sa force et sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est son âge. Sa force, c'est qu'il a fait ça au fond toute sa vie. Il a été
sénateur en 72.
Quasiment toute sa vie. Ouais. Il a été 2 fois vice-président, si vous voulez. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui est d'une expérience incroyable et donc qui, avec son équipe, est quand même en capacité de gérer des situations extrêmement complexes.
Yannick Mireur.
Et puis il a été aussi le sortant lorsqu'il a passé la main à Mike Pence,
en plus,
il y a 4 ans, ce qui n'est pas si vieux. Donc il connaît ça naturellement. Mais je pense qu'on peut beaucoup spéculer, évidemment, ça dépendra. Trump a la caractéristique d'être erratique et imprévisible, et dans l'excès. Donc je ne suis pas sûr que ce soit absolument garanti. Et de la même manière, je ne suis pas certain que les Américains finalement tirent les conclusions de ce scrutin, c'est-à-dire des choses qui sont quand même curieuses, à savoir l'élection par le collège électoral. Certains d'ailleurs plaident pour une réforme des institutions américaines. Cette période très longue de 3 mois qui ne sert pas à grand-chose sinon à créer de la confusion. Et ce sera ça qui sera intéressant de voir, si par la suite il peut y avoir une espèce de consensus droite-gauche, ou républicain-démocrate, comme vous voudrez, si Joe Biden, c'est ça sa grande mission.
Oui.
S'il va pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, s'il va pouvoir le reconstruire pour que les États-Unis tâchent de penser leur plaie et de préparer l'avenir, y compris par exemple au plan institutionnel, comme on vient de le voir avec cette élection très surprenante.
Et vous restez avec nous, 19h47, on se retrouve dans quelques secondes pour continuer à parler de cette élection américaine qui nous tient en haleine. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine et Julien Bugier.
19h50, suite de notre édition spéciale jusqu'à 20h et tout au long de la soirée, évidemment, sur Europe 1, on va vous faire suivre ces élections américaines qui semblent en faveur, décidément, de Joe Biden. Ça se confirme. Il prendra d'ailleurs la parole pour s'exprimer à la nation. C'est ce qu'on apprend de la part de son entourage. Alors, on évoquait tout à l'heure la colère qui a grondé dans le pays et cette fracture entre les deux Amériques. C'est vrai que même si Joe Biden est confirmé à la présidence des États-Unis et que Donald Trump reconnaît in fine sa défaite, il restera une fracture. Illustration avec Steve, électeur républicain en Pennsylvanie. Il est au micro de l'un de nos correspondants, Théo Manval. On l'écoute.
Je ne sais pas ce qui va se passer, mais s'il perd cette élection, le combat ne sera pas fini. Ce sera juste le début. On ne va pas faire des émeutes, on n'est pas comme les groupes d'ultra-gauche. On va protester. Mais il n'y aura pas d'émeutes, il n'y aura pas de violence. On devra juste travailler plus dur pour les prochaines élections. Et vous verrez, dans 2 ans, pour les élections de mi-mandat, les choses auront changé.
Et vous me disiez quelque chose, Yannick Mireur, pendant la pause, politologue spécialiste des États-Unis. Vous me disiez, ce qui est bien avec Joe Biden, c'est qu'il peut ressouder cette Amérique, car il est à la fois démocrate, mais en même temps un peu républicain aussi.
Vous nous avez fait écouter tout à l'heure le président Bush père et son discours d'acceptation de la défaite en 1992 face à Bill Clinton. Bon, c'est un gentleman, là on est dans une autre époque, mais quelle est la différence entre Joe Biden et M. Bush père? Pas confondre avec le fils, hein. Le père, très peu. On se retrouve là dans le creuset d'un consensus très respectueux des institutions, d'une forme de décence dans l'exercice du combat politique. Par ailleurs, il y a l'élément générationnel, bien sûr, aussi, et donc l'éducation, les gens qui ont vécu la guerre, etc., le Vietnam et tout ça. Voilà. Donc je pense que c'est ça, Joe Biden, et que compte tenu du Parti républicain aujourd'hui, qui est un ovni, il aurait été un assez bon candidat républicain aussi, et donc
oui,
je pense qu'il gouvernera au centre.
À ceci près que, sur le papier, Nicolas Bouzou, on verra s'il gouverne au centre et si d'ailleurs il doit composer
avec le Sénat, c'est un républicain.
C'est ce que j'allais dire, avec des sénateurs républicains.
Donc
il devra trouver un consensus. Mais sur le papier, son programme, car lui il en a un, à la différence de Donald Trump qui n'avait pas de programme et qui disait simplement je vais continuer ce que j'ai fait, ça va être formidable. Joe Biden, lui, il a un programme économique fort, et là on parle des États-Unis à proprement parler, hausse des taxes sur les plus riches, des impôts sur les plus riches et des impôts aussi sur les sociétés, avec l'idée de renforcer le fameux Obamacare mis en place par le président Obama.
Oui, c'est ça. Alors, il y a trois grands volets dans le programme économique de Joe Biden. Il y a en effet des augmentations d'impôts sur les plus riches. Il a beaucoup répété pendant sa campagne que les gens qui gagnent moins de 400 000 dollars par an ne subiraient aucune augmentation d'impôts. Donc, il met le seuil assez haut. Il y a des augmentations de taxes sur les entreprises.
Et d'ailleurs, pardon, Nicolas, je vous coupe, mais j'ai découvert à cette occasion qu'on dit toujours que les Français paient beaucoup d'impôts, ce qui est au demeurant factuellement vrai par rapport à nos voisins européens, mais aux États-Unis, ils en payent également beaucoup.
Vous avez tout à fait
raison.
On est
sur des niveaux de 35% de taux marginal.
Alors, vous avez mille fois raison de le rappeler, et puis il faut surtout ne pas oublier la fiscalité des États. En Californie, par exemple, vous payez énormément d'impôts. Ce que vous dites est tout à fait juste. Donc, il y a des augmentations d'impôts pour les personnes les plus fortunées, je l'ai dit, augmentation d'impôts sur les entreprises avec, et ça c'est très important parce que c'est quelque chose que Trump a fait aussi, une pénalisation des entreprises qui vendent aux États-Unis mais qui délocalisent leur production. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a quand même maintenant un peu cette méfiance de la mondialisation, y compris chez les démocrates. Et puis troisième sujet, c'est une politique de relance budgétaire qui passe par ce que les Américains appellent le Green Deal. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on fait en France dans le plan de relance, c'est-à-dire essayer de faire de la relance par des investissements verts. Alors en France, on le fait beaucoup par la rénovation des bâtiments. Aux États-Unis, il s'agit plutôt de faire des infrastructures, de développer les énergies renouvelables. Mais donc, on a en effet quelque chose qui est plutôt de centre-gauche, mais avec la cohabitation, en réalité, Joe Biden, sa politique économique, elle sera sûrement au centre. Et je pense qu'à titre personnel, c'est quelque chose, en réalité, qui lui va plutôt bien, puisque économiquement, il se situe plutôt aujourd'hui, en réalité, sur la droite du Parti démocrate.
C'est un peu comme en France, Yannick Mireur. Aux États-Unis, quand on est élu, on ne se souvient plus de ses promesses. Alors, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais est-ce que c'est un peu comme en France ou est-ce que les politiques, plutôt, tiennent leurs engagements?
Non, mais simplement, disons que ça, c'est variable. Il y a quand même des gens qui sont assez sérieux. C'est vrai que l'historique de M. Biden, qui est un homme modéré, ne montre pas quand même des réalisations ou d'une incarnation particulièrement forte. En tous les cas, donc son tour arrive maintenant, il ne faudra pas qu'il le rate.
Ouais, de ce point de vue-là, d'ailleurs, Donald Trump a plutôt tenu ses promesses. Hein. Il a fait ce qu'il a dit.
Trump, lui, a tenu ses promesses, il a fait ce qu'il a dit. D'autres l'ont fait avant lui aussi. Je pense que Obama n'était pas si mal là-dessus, mais face à pas très efficace du point de vue politique, du point de vue de la machine politique, face à un Sénat obstructionniste, peut-être, un, Biden sera plus adroit là-dedans, parce qu'effectivement, il y a passé sa vie. Et deuxièmement, sortant de l'épisode Trump, peut-être que le parti républicain s'amendera un petit peu lui-même face à quelqu'un qui l'apprécie.
Réaction, pour conclure, peut-être Léa Pizarre, en quelques mots, ancienne conseillère de Bill Clinton.
Oui, chers messieurs, je vous trouve quand même un peu négatif, alors que pour moi, nous sommes devant nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Ça ne va pas être facile. Il faut sortir de la crise du Covid, il faut sortir de la crise économique. L'équipe Biden aura du pain sur la planche, mais je voudrais juste vous parler de l'avenir des relations transatlantiques qui me tiennent vraiment à cœur. Et elles tiennent à cœur à Joe Biden. Sa priorité en politique étrangère sera en premier lieu de restaurer les alliances, de restaurer le multilatéralisme. Il comprend que les États-Unis ont besoin des alliances. Il aime l'Europe. Si vous regardez, il s'est historiquement exprimé, notamment en tant que vice-président à la conférence sur la sécurité de Munich tous les ans. Et on a là un discours pro-européen et un discours international. Donc je voudrais vous rassurer là-dessus et vous dire que, notamment en politique étrangère où il aura une grande marge de manœuvre, les relations seront au beau fixe.
Bien, merci infiniment Léa Pizarre d'avoir été ce soir en direct avec nous depuis New York. Merci Yannick Mireur, merci infiniment Nicolas Bouzou de m'avoir accompagné dans le studio d'Europe Soir. 19h57, on marque une pause dans un instant, le rappel des titres, et puis Émilie Mazoyer avec la musique qui reçoit ce soir Marina Kaye. Bonne émission Émilie, et très bon week-end à vous. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi à partir de 18h. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer, évidemment, sur Europe 1.
Europe 1. Europe 1. The American Choice.